France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Oui, une nation n'est libre et forte que par la fraternité et la solidarité qui l'unit. Une nation n'est libre et forte que d'avoir des héros dont elle doit se montrer digne en s'élevant à leur hauteur et en restant soudée. Tel est le sens profond de votre combat.
C'était mardi matin, cérémonie solennelle aux Invalides en hommage à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, ces deux soldats qui ont été tués au cours de l'opération qui a permis de libérer quatre otages retenus au Burkina Faso. Moment d'émotion, une cérémonie présidée par Emmanuel Macron, un discours assez fort où il parlait de ces deux commandos tombés au cours de cette opération de sauvetage comme des héros et la nation doit se montrer digne de ces héros. Est-ce que c'était une manière pour vous, pour l'un et pour l'autre, de clore les polémiques qui ont pu naître juste après la libération des otages, et notamment des deux otages français qui étaient retenus au Burkina Faso, Natacha ?
Je pense qu'en fait, il faut absolument découpler les deux questions. La question du sens de la mort de ces soldats, et la question qu'on peut se poser ensuite, qui est celle de la responsabilité individuelle des touristes, etc. C'est-à-dire que quand certains furieux de cette histoire disent « mais ce sont deux soldats qui sont morts pour rien, pour aller sauver deux touristes », non. Ces deux soldats sont morts pour l'idée qu'ils se font de la France et que nous nous faisons collectivement de la France, c'est-à-dire que la France, partout, secourt ses citoyens et a un rôle de projection de ses armées et de défense de certains intérêts, même dans des pays lointains. En revanche, la chose importante aussi, c'est que une fois qu'on a dit cela, que cette mort a un sens et que c'est la fonction essentielle de l'armée que de perpétuer cette idée de la France, il ne faudrait pas que le politique soit tenté d'instrumentaliser ce qui aujourd'hui, disons, est soutenu par une partie des citoyens dans l'image de l'armée, pour compenser son incapacité, l'incapacité du politique, à intégrer, à penser la nation, la communauté nationale. Voilà, on voit bien cette tentation de dire, eh bien, écoutez, puisque l'armée est la seule institution qui arrive encore à créer de la cohésion, allons-y, faisons d'immenses cérémonies et faisons porter ce devoir de cohésion à l'armée. Je pense que les soldats ne demandent pas ça.
On va en parler justement de la France et de la nation qui semble redécouvrir son armée depuis quelques années. Mais Gilles, sur le sacrifice et la mort de ces deux soldats, quand on a dit que leur sacrifice était vain, il y a eu une polémique politique qui est née immédiatement après leur libération la semaine dernière. Ils seraient morts, ces deux commandos, pour sauver les touristes imprudents, autrement dit pour de mauvaises raisons. Est-ce que vous avez compris cette manière de présenter les choses ?
Le président de la République a répondu dans son discours. C'était pas l'objet principal, mais il ne pouvait pas ne pas répondre dans la mesure où c'est, d'une certaine manière, le gouvernement lui-même qui avait lancé cette polémique. Il y a répondu en disant...
Et c'est le président de la République lui-même qui a donné le feu vert pour l'opération.
Évidemment. Et il y a répondu en disant, je le cite, hein, que la France n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, et fût-ce à l'autre bout de la planète. Je crois que c'était une cérémonie, cette cérémonie solennelle, comme vous l'avez dit, était empreinte de dignité, de gravité, d'unité, comme le sont souvent les cérémonies aux Invalides, un peu comme un moment de communion républicaine et nationale, presque comme une réponse à une société qui est de plus en plus fragmentée et de plus en plus divisée. Et ce qui est très frappant quand on se place dans une perspective plus longue, c'est de voir à quel point les cérémonies aux Invalides, qui étaient des moments exceptionnels, sont devenues de plus en plus habituelles. Alors ça tient pour partie aux circonstances, mais pas seulement, parce qu'il y a eu un certain nombre d'hommages aux militaires, comme celui que l'on a vu mardi dernier, mais pas seulement. Les Invalides ont été aussi de plus en plus utilisés pour des hommages à des responsables politiques. Il y en a eu un par an depuis 6 ans, comme un hommage à des personnalités du monde artistique,
Jean d'Ormesson par exemple,
culturel, mais et de très nombreux autres. Et donc il y a une forme de d'utilisation des Invalides comme moment de communion nationale et presque comme substitut à une unité qui est en train de se non pas de se disloquer, mais en tout cas de se fissurer.
C'est exactement ce que je disais à l'instant. En effet, cette multiplication est un peu inquiétante parce qu'elle nous révèle le besoin des politiques de se raccrocher à cette unité qui apparaît là et qui ne dépend pas d'eux. C'est-à-dire que il ne faut jamais abuser de ce genre de cérémonie dans la mesure où elles ne suffiront pas à réparer la cohésion d'un pays.
Et vous pensez qu'on n'en est pas loin ?
Mais on peut se réjouir que dans des moments comme celui-là, il y ait une forme d'unité nationale, et on voit à quel point, en effet, beaucoup de Français sont émus face à l'héroïsme de certains êtres humains. C'est quelque chose qui nous porte. Mais pour autant, ça ne suffira pas à compenser l'absence de politique d'intégration, l'échec de l'école, la dislocation des liens sociaux qui font que nous sommes dans une incapacité aujourd'hui à créer une société unie autour de valeurs.
Malgré tout, on peut s'interroger sur le fait qu'on voit aujourd'hui avoir lieu ces cérémonies. Gilles, il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y avait déjà des soldats français qui étaient tués en cours d'opération à l'étranger. Et pourtant, il n'y avait pas de cérémonie de ce type, ni aux Invalides, ni ailleurs.
Il y en avait beaucoup. Moi, je pense qu'on est, et c'est vrai, de l'ensemble des sociétés occidentales, dans une évolution de notre rapport à la mort qui devient quelque chose de plus en plus inacceptable. Et c'est à la fois, je crois, un progrès parce que ça montre dans nos sociétés, par rapport à ce que sont nos valeurs, la place éminente de la vie de chacun. Et c'est en même temps une faiblesse potentielle par rapport à ce qu'est le reste du monde qui n'accorde pas la même place à la vie humaine. Donc c'est vrai, il y avait des moments auparavant. Alors il y a eu quand même une vague d'attentats qui a été aussi l'occasion de réactiver ces cérémonies aux Invalides et de manière totalement légitime. Mais je crois que
aux États-Unis, par exemple, ils sont familiers de ce type de cérémonie depuis des années. En tout cas, les vétérans, la place de l'armée est totalement différente au sein de la société américaine.
Oui, c'est vrai. C'est pas seulement la place de l'armée, puisque les cérémonies aux Invalides, elles ont été très au-delà de l'armée depuis 6 ans. Il y a plus d'une dizaine de cérémonies aux Invalides qui ont eu lieu.
Natacha.
C'est pas seulement la place de la mort qui survient, c'est la place de la mort qui est assumée. Le risque assumé, c'est cela qui est essentiel. Et d'ailleurs, il y avait une contradiction légère dans le discours d'Emmanuel Macron, qui était un très bon discours, parce qu'il sait faire ce genre de choses. Mais quand il dit, c'est la destinée d'un soldat de trouver la mort. Est-ce réellement sa destinée ? On peut citer la phrase du général Patton, le but ce n'est pas d'aller mourir pour sa patrie, c'est de faire que le salaud d'en face meure pour la sienne. C'est une façon brutale et à l'américaine d'exprimer la chose, mais ça signifie que le but d'un soldat n'est pas de mourir. Donc expliquer cela, c'est donner une coloration un peu étonnante à cela. Ce qu'il faut, c'est assumer le risque de la mort, et c'est quelque chose en effet auquel nous ne sommes plus préparés dans nos sociétés occidentales, et savoir aussi que le risque, quel qu'il soit, doit être mesuré par chacun. Et là, c'est le problème de savoir aussi si véritablement nous ne devons pas penser différemment notre société, du tourisme, de l'ouverture, etc. Et ça concerne la responsabilité des touristes. Vous voyez, il y a la question du risque, elle se pense différemment.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Alors tout paraît dérisoire après ce sujet-là, mais on va malgré tout en parler parce que la question est au cœur d'une polémique politique à Paris et bien au-delà de la capitale. Les trottinettes électriques, il y en a 15 000 en circulation, elles seront sans doute 40 000 à la fin de l'année. Elles sont accusées de semer le chaos à Paris, dangereuses pour les utilisateurs, pour les piétons, les opérateurs se font la guerre, les juiceurs, les auto-entrepreneurs qui sont chargés de recharger les trottinettes sont soumis à la précarité et à des rythmes pénibles. Certains voudraient les interdire. La réflexion de leur régulation est en tout cas posée par la mairie de Paris. Écoutez Jean-Louis Missica, adjoint à Anne Hidalgo, il est en charge de l'urbanisme.
Si jamais nous n'arrivons pas à la fois à éduquer les utilisateurs et à convaincre les opérateurs que ce mode de déplacement, ils ont une responsabilité dans l'espace public, alors oui, nous interdirons, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution.
Jean-Louis Missika, c'était mercredi dans l'émission C'est à vous sur France 5. Est-ce que vous utilisez l'un et l'autre la trottinette, Gilles ?
Non.
Natacha ?
Non, non plus.
Non plus. Bon.
Pour deux raisons. D'abord, une raison purement rationnelle qui est la raison...
La peur de la mort.
Le risque, oui. Oui, c'est risqué. Oui, quand vous êtes dans la circulation, confronté à des véhicules qui ne vont pas à la même vitesse, qui ne vous voient pas forcément, bien sûr que c'est extrêmement dangereux. Surtout avec la chaussée parisienne, les roues des trottinettes sont minuscules. Ça fait évidemment, ça se coince dans les nids de poules. C'est épouvantable. Et après, il y a une question, j'allais dire, qui est alors là purement subjective et qui est la conception que l'on peut avoir de la dignité d'un être humain sur un véhicule à roulettes.
Voilà. C'est quasiment esthétique.
C'est une question d'esthétique,
exactement. Et morale, Gilles. Mais est-ce qu'il faut pourtant, pour autant, les interdire, les trottinettes électriques, comme certains le réclament ?
Alors, je ne le crois pas. Ce sujet est fascinant et passionnant.
Ah, il est.
Ce n'est pas seulement un sujet parisien, parce qu'il y a des trottinettes électriques dans d'autres grandes villes. Disons que c'est un sujet urbain, mais qui, à Paris, a pris un tour spectaculaire pour les raisons que vous avez évoqué. Il y en avait quelques centaines il n'y a pas si longtemps. On est à 15 000, 40 000 à la fin de l'année. Et donc, un développement de beaucoup de questions. Ce que je trouve passionnant dans ce sujet, c'est que c'est la politique par l'objet. C'est la politique par le concret, c'est-à-dire qu'on rentre dans des questions politiques, non pas par l'idée, par l'abstraction, par le concept, mais par l'objet, que c'est un sujet qui est éminemment politique.
Par l'objet ridicule, en croit Natacha, d'autant
qu'il que cet objet symbolise des mutations majeures de notre société. Oui. Une mutation philosophique, c'est on ne veut plus avoir la propriété, mais on veut avoir l'usage. On le voit avec les trottinettes, mais on le voit avec bien d'autres biens. Une mutation technologique, c'est la rencontre à la fois du satellite et du numérique avec la géolocalisation. Et puis, une nouvelle préoccupation qui est la question de l'environnement. Donc je trouve ce sujet absolument passionnant. Certains disent il faut interdire. Je trouve que si on interdit, en tout cas a priori, comme ça c'est une forme de démission. D'autres disent, les plus libéraux, il ne faut rien faire. C'était la position notamment de Gaspard Koenig. Est-ce qu'il peut y avoir une position social-démocrate à la trottinette ?
Ça, c'est une belle question.
Moi,
Anne Hidalgo a proposé aux opérateurs une charte de bonne conduite. Est-ce que ça s'approche de la social-démocratie ou est-ce qu'on est déjà dans le totalitarisme ?
Non, je crois que la trottinette est quelque chose de positif au sens où c'est un outil de mobilité douce, comme on dit, qui est à la fois moins bruyant, moins encombrant, moins polluant. Dès lors que il y a suffisamment de concurrence pour que les prix soient abordables, et souvent les trottinettes sont chères, et qu'il y ait surtout suffisamment de régulation, y compris de responsabilité des usagers eux-mêmes, pour que ce soit acceptable dans l'espace public.
Natacha ?
Oui, parce que dans la déclinaison, en effet, tout à fait juste que vous avez faite des différentes problématiques à l'œuvre autour de cet objet, et en effet c'est passionnant, il y a aussi la question, une fois de plus, de la responsabilité individuelle et du civisme, et de la façon dont nous pouvons nous comporter en société.
Mais s'il est interdit de rouler ou de stationner sur les trottoirs, ça vous va ?
C'est le cas.
Rouler,
c'est passible d'une amende de 135 euros.
Oui. Juste sur la question de la responsabilité, cette responsabilité rencontre tout de même celle d'acteurs qui sont, une fois de plus, comme dans tous les domaines où les nouvelles technologies interviennent, qui sont des acteurs dont le but est avant tout d'exploiter non seulement le numérique pour, disons, fournir un service sans réellement produire quelque chose derrière, et d'exploiter aussi ceux qui vont être chargés de recharger ces trottinettes. C'est-à-dire qu'il y a derrière une économie qui est une économie de l'exploitation. Et c'est là-dessus qu'il faudrait se focaliser, c'est-à-dire le fait que nous, individus, sommes incités à aller vers ce genre d'objet parce que, de fait, ça facilite la vie, c'est intéressant, c'est ludique aussi, si on veut. Mais surtout, sans prendre en compte le modèle économique qui est derrière. Donc la responsabilité individuelle, elle est aussi face à cela et elle nécessite une régulation des politiques.
Encore un mot, Gilles, avant de passer au débat.
Oui, il y a la question économique et le modèle économique n'est pas si simple. On dit les exploitants veulent justement exploiter un modèle économique. C'est pas si simple que ça. La rentabilité du système n'est pas si simple. Et quand on a, comme aujourd'hui à Paris, 11 opérateurs différents, on peut parier sans prendre trop de risques qu'une bonne partie d'entre eux ne seront plus là dans quelques temps. Et puis, il y a la question des usagers. Et il faut quand même malheureusement reconnaître que globalement, collectivement, nous nous comportons très mal. Nous nous comportons mal pendant, c'est-à-dire pendant l'usage de ces trottinettes. Chacun a vu des personnes où ils sont à deux sur une trottinette, sans casque, avec des écouteurs, en brûlant les feux et en roulant trop vite.
Oui.
Et nous nous comportons mal, et c'est un cas spécifiquement français, après, c'est-à-dire dans la manière non seulement dont nous les garons, mais aussi avec le nombre de dégradations et de vols. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous interroge. On est là tous à dire qu'il faut davantage de responsabilité et davantage de respect. C'est vrai pour les autres, mais ça s'adresse à chacun d'entre nous. Et je crois qu'on en est aujourd'hui très loin.
Avant d'accueillir Laetitia Strauss-Bonnard, un mot quand même à propos des 80 km/h. Vous avez obtenu gain de cause, Natacha. Vous militiez contre cette décision.
C'est pas pour les trottinettes.
Gouvernement, non, ça c'est vrai.
C'est pas pour les trottinettes.
Non, mais je ne militais pas. Je me permettais de faire remarquer que c'était méconnaître totalement les conditions de vie de la grande majorité de nos concitoyens, dans des endroits où, évidemment, la vitesse, la régulation de la vitesse touche à la question de la liberté individuelle, de la prévention réelle face à une mesure coercitive facile. C'est la question de la possibilité pour les individus de tout simplement vivre à peu près correctement au quotidien. Donc, il y a des tas de sujets là aussi derrière. Tout simplement, l'idée qu'il fallait se taire parce que c'était pour éviter des morts me semblait un argument, on va dire, qui ne tenait pas compte de l'ensemble des données.